Et bienvenue à cette nouvelle émission des héros anonymes. On a une héroïne anonyme aujourd'hui. Bon, héroïne est peut-être un mauvais choix de mots avec l'organisation pour laquelle elle travaille. Je m'en excuse. Vous allez comprendre, là. On va prendre le temps de s'expliquer. Élise Desauniers, directrice générale Fondation Dépendance Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ben merci pour l'invitation.
C'est un grand plaisir. Donc, vous avez compris là, mon mauvais jeu de mots, héroïne et Fondation Dépendance Montréal. On va régler la question tout de suite. Fondation Dépendance Montréal, on comprend que c'est des dépendances. Hein? Le nom est quand même assez explicite, c'est parfait. Peut-être plus simple que Fondation Delors-Cormier à l'époque,
oui.
Là, où je vais vous avouer là, que je ne connaissais pas exactement toute l'histoire de Delors-Cormier dans le réseau universitaire, mais Fondation Dépendance, on comprend, c'est rattaché en plus au Centre de réadaptation à dépendance de Montréal. Quand on parle de dépendance, on a tous des images qui nous viennent en tête. On pense, bon, oui, on peut penser... On peut penser à l'alcool, on peut penser à la drogue, mais il y a d'autres sortes de dépendances. Vite de même, quelles sont les dépendances qui sont captées ou qui font partie de l'offre de service du centre que vous soutenez là, comme fondation?
Mais donc, évidemment, on l'a nommé hein, drogue, alcool, c'est les plus connus, mais il y a aussi la cyberdépendance et, dont on parle de plus en plus depuis plusieurs années, et le jeu aussi. Donc, c'est quatre grands groupes de dépendances-là.
C'est vrai, la cyberdépendance, on entend parler, il n'y a pas personne qui n'a pas entendu parler de Fortnite à un moment donné, là, qui m'a hantise. Là, mon garçon s'est déguisé en bonhomme de Fortnite, même s'il ne joue pas à ça, puis qu'il n'a jamais joué à ça, puis qu'il ne jouera jamais à ça. Bon, je suis plein de beaux principes après ça. Clairement, tous les parents sont pleins de bons principes.
Watch out à l'adolescence.
Oui, c'est ça, ça se peut qu'il navigue dans mes limites. Et le jeu. Le jeu, on pense par exemple les casinos, les jeux en ligne aussi. Bon, évidemment, le jeu prend bien de la place, puis ça peut être juste de jouer à l'argent avec ses amis. Tout ça est un reflet, ou n'en est pas un, mais d'une société qui, clairement, a peut-être failli des fois avec ses gens, avec son monde, parce que clairement, on met en place des éléments, je pense aux jeux qui font partie de l'État. Hein. C'est quand même particulier que ce soit l'État qui centralise tout ça, mais qui en même temps utilise ça comme une belle grande tirelire pour générer de l'argent. Mais que d'un
même
autre
chose
côté,
pour l'alcool,
ben oui,
même chose pour le cannabis également.
Ouais.
Ouais.
Fait que l'État a bien beau centraliser, puis bon, probablement bien gérer ça. Je suis sûr qu'il y a des bien-pensants beaucoup plus intelligents que moi qui font ça, mais en même temps, ils créent le problème aussi d'un côté. Comment les dépendances, puis toute la clientèle qui rentre au centre, comment on peut en faire la lecture de ce qu'on a peut-être échappé comme société pour qu'on en arrive là?
Moi, ça fait un an et demi que je suis là, donc je suis vraiment, vraiment pas une spécialiste de ces enjeux-là. Notre rôle, nous, à la Fondation, c'est de soutenir les usagères et les usagers. Mais ce que j'ai compris avec mes petits yeux naïfs là, de nouvelles dans le milieu, c'est que c'est de la souffrance, puis c'est de la souffrance invisible. La crise de dépendance, c'est une crise de santé mentale. On le sait, 90 % des gens qui souffrent de dépendance ont aussi des problèmes de santé mentale.
Ah ouais.
Et à quelque part, je pense que ce qu'on a là, c'est des problèmes de santé mentale sous-diagnostiqués dont on ne s'est pas occupé. Puis les gens, quelque part, ben, ils cherchent à apaiser leurs souffrances. Hein. Tout le monde cherche à apaiser ses souffrances. Dans le cours de notre vie, on trouve différents moyens. Pour certaines personnes, comme moi, par exemple, ça peut être le sport. Je suis devenue une coureuse dans les dernières années, puis ma pratique du sport est une façon de trouver un équilibre dans ma vie. Mais pour d'autres, ben, ils vont trouver une espèce d'apaisement dans de la consommation. Puis au début, ça fait du bien. Puis à un moment donné, ben, on réalise que ça fait plus de tort que de bien. Mais comme vous le disiez, ben, les drogues, il y en a partout. De l'alcool, il y en a partout. Du jeu, il y en a partout. De l'Internet, il y en a partout. Fait que la porte est grande ouverte. Puis des gens qui souffrent, ben, vont là. Embarque là-dedans, puis des fois, ben, il y a une roue de laquelle on n'est plus capable de sortir.
Ouais.
Ce que je perçois, c'est que souvent, on va voir les questions de dépendance comme une question de volonté. Hein? Il y a juste à arrêter de boire.
C'est assez simple.
Mais c'est pas ça du tout. On a aussi une stigmatisation. Les gens qui souffrent de dépendance, c'est certaines personnes, hein, ceux qu'on voit sur la rue, puis on détourne le regard. Mais en fait, non, j'en ai rencontré des usagers, des usagères, et puis... Ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est vous, c'est moi, c'est des gens proches de nous. Puis c'est ça qui m'attire là-dedans. C'est sombre, on ne veut pas en entendre parler. Pourtant, c'est super proche de nous. Puis ces gens-là ont besoin d'être soutenus.
on s'entend, c'est pas une cause sexy. Hein?
Non.
Nommons-le, c'est pas de jolis petits animaux. C'est pas des enfants. Mm-hmm. Ben, des enfants malades, c'est pas sexy. On comprend, mais il y a un caractère universel. Personne
ne reste
insensible. Ah,
il y a de l'empathie. Ben, tout le monde aime ça. Ben, je veux pas dire tout le monde aime ça, les enfants malades.
J'en suis fou.
Mais je veux dire, ça fait un consensus. Hein?
Oui.
Quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, là, tout le monde veut s'associer avec des chatons. Tout le monde veut s'associer avec des enfants malades. Tout le monde veut s'associer avec des maladies qui sont nobles, comme le cancer. Mais les dépendances, c'est pas mal plus tough.
C'est plus tough.
Et c'est une raison pourquoi je suis allée là.
Ah oui.
Trouver de l'argent pour les petits animaux cute, parce qu'il y a des animaux qui ne sont pas cute. Hein, quand on parle d'animaux de la ferme, quand on parle d'animaux de la faune urbaine, là, les écureuils, les ratons laveurs, ça, on les aime moins. Quand on parle des animaux d'élevage qu'on mange, ça, c'est plus tough. Mais pour les petits chiens et les petits chats, c'est facile de trouver de l'argent.
Sur le brador, ça se passe bien.
Ça se passe super bien. On envoie un mailing avec une histoire de petits chatons abandonnés, puis l'argent rentre.
Je me retiens de ne pas sortir mon téléphone pour aller faire un don.
Un mailing pour une histoire de quelqu'un qui s'est retrouvé dans la rue, qui essaie de s'en sortir, puis peut-être qu'il a fait une ou deux rechutes. Ça, c'est pas mal plus tough. Il y a quelque chose qui m'attire là-dedans, justement, parce que c'est pas sexy, parce qu'on veut pas en parler. Y a-tu moyen à notre niveau, là, je vais pas changer le monde, mais y a-tu moyen de changer ça un petit peu, puis de développer un petit peu d'empathie pour, j'allais dire ces gens-là, mais c'est pas ces gens-là, c'est nous.
On est à, des fois, un geste, un moment dans notre vie, une fraction de seconde qui fait en sorte qu'on peut très bien là, se retrouver
dans cette situation-là. Quand on parle de cancer, on se dit tous qu'on a une chance sur X à t'atteindre telle sorte de cancer. Maladie cardiaque, c'est la même chose. Mais j'ai envie de penser que les dépendances, c'est la même chose.
Ouais.
Et on a tous des propensions à différents niveaux. Mais c'est la même chose pour le cancer. Fait que quand on parle de dépendance, ben, on parle de nous.
Oui. Puis les dépendances, c'est comme si on était quotidiennement dans un buffet à volonté auquel on peut aller piger là-dedans et on peut tomber dans le buffet. Là.
Tout à fait.
C'est là autour de nous. J'ai fait le lien là, avec les petits animaux cute parce que justement, vous arrivez de la SPCA de Montréal. Pendant que vous avez été là pendant quand même quelques années, vous avez quelque chose, hein, je pense, pour les animaux. Ça n'a pas l'air anodin dans votre vie. Je regarde ce que vous avez écrit. Là, je mange avec ma tête, vache à lait, le défi vegan. Je pense que vous aimez les animaux.
Oui.
Je ne suis pas sûr, mais je dirais que oui. Aimer les animaux, c'est une chose. Aimer les humains, évidemment, ce n'est pas bête non plus. Mais quand même, de passer d'une organisation qui est celle de la SPCA à la Fondation Dépendance de Montréal, au-delà du défi, au-delà de c'est une cause qui ne sera pas facile à vendre, puis on veut mettre un peu de lumière là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Élise Desaulniers pour dire ben ciao les animaux que j'aime tant? Ben, il y a d'autres moyens de continuer de les aimer, là, ça passe pas nécessairement par une job.
C'est pas mutuellement exclusif.
Non, exactement. Pour faire ça va être d'autres choses, ça va être les dépendances.
Mais vous dites que j'aime les animaux, puis effectivement, je continue d'aimer les animaux. mes chats écoutent, ils sont rassurés. Mais on dirait que ce qui me drive, c'est plus des questions de justice sociale.
Ouais.
J'ai commencé à m'intéresser aux animaux, il y a quoi, ça me rajeunit pas, mais 15 ans et plus, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans notre angle mort qu'on ne voyait pas par rapport aux animaux. Je me suis surtout intéressée aux animaux de ferme. Quand j'ai vu que l'empathie qu'on avait pour nos animaux domestiques ne se reflétait pas nécessairement pour les autres animaux, qui sont les animaux qu'on exploite pour manger puis tout ça. Je suis drivée par ces questions-là. Les angles morts, ce qu'on ne voit pas, ça me stimule. Dans la dernière année, j'ai été touchée par la question du don d'organes, ce qui est une autre question de justice sociale. Quand on parlait de cancer il y a un instant, quand on a le cancer, on a accès à des traitements. Quand on a besoin d'une greffe, là, c'est plus compliqué parce qu'on a besoin d'un organe qui va venir de donneurs vivants ou décédés. Quand on a besoin d'un rein, d'un lobe de foie, on doit un peu gosser son entourage, c'est compliqué. Puis j'ai décidé il y a 2 ans de donner mon rein anonymement. Et ça a été une démarche avec plein de rendez-vous à l'hôpital, plein de temps perdu dans des salles d'attente, un congé de maladie aussi, où j'ai beaucoup réfléchi, puis j'avais envie d'avoir plus de temps pour moi. Fait que la première raison de partir de la SPCA, c'est que j'avais envie d'avoir plus de temps, puis la SPCA a besoin, SPCA, c'est 150 employés, des centaines de bénévoles, à peu près 8-10 millions de budget par année. C'est une organisation qui a besoin d'une DG qui va mettre tout son temps. Là, moi, il y avait plein de choses qui me passionnaient. La question du don d'organes,
ben oui.
Je voulais continuer à m'impliquer là-dedans pour faire parler de ça. J'avais vu des gens malades dans les couloirs d'hôpitaux. La question de la santé humaine m'appelait. J'avais envie peut-être de recommencer à écrire aussi. C'est quelque chose qui me manquait. Fait que j'ai décidé juste de faire un petit virage. Là, c'est pas un 180, c'est peut-être comme un 10-20 degrés pour avoir juste un petit peu plus de temps pour m'occuper de d'autres causes. Puis peut-être amener à faire des liens, hein, parce que justement, comme on le disait, c'est pas mutuellement exclusif d'avoir de l'empathie pour les animaux puis de l'empathie pour les humains. Fait à quelque part, tu sais, mon réseau de gens qui trippent sur les animaux, si je pouvais les amener à avoir un peu de considération pour la souffrance humaine, ouvrir leurs yeux sur ça, peut-être que ça pourrait être utile. Fait que c'est un peu ces questions-là qui m'ont amené à passer à la Fondation Dépendance, puis j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas. Plein de choses à apprendre, fait que c'est sûr que c'est super stimulant.
Bien, vraiment, puis donc, je comprends, tu sais, j'entends beaucoup des gens qui arrivent dans les environnements de travail ou qu'on voit dans leur grande publication très philosophique, là, disant « Ah, là, je suis enfin sur mon X », mais à vous écouter puis à vous regarder, je pense que vous en avez plusieurs des X. Il n'y a peut-être pas un X qui est exclusif ou en tout cas dans différentes sphères, puis ça permet d'aller chercher et de s'impliquer et probablement de se raccorder à différents éléments. Alors, je trouve ça fascinant. Élise Desaulniers, on va déjà s'arrêter un petit moment. On a déjà fait la moitié de notre bloc, ça a passé. Mais il me semble qu'on s'est juste dit bonjour.
Je pense que je parle trop.
Je n'ai pas le droit de dire ça. On prend une courte pause et on continue cet entretien long avec Élise Desaulniers, directrice générale de la Fondation Dépendance Montréal. Et on est de retour avec Élise Desaulniers, directrice générale Fondation Dépendance Montréal. Élise, je vais te citer, tiens, parce que tu as parlé du rein, hein, tu as parlé du don anonyme. Bon, de moins en moins anonyme, tout le monde est rendu au courant, mais c'est pas ça la notion de don anonyme, c'est que tu savais pas qui allait être le receveur.
Et je le sais toujours pas.
Toujours pas, ouais. Ben oui, c'est un maudit mystère, mais c'est correct, des fois c'est parfait comme ça. Je te cite, « J'en parle pour ça et non pour être élevé au rang d'héroïne. J'ai pas sorti quelqu'un d'un incendie ni sauté dans l'eau glacée pour sauver quelqu'un de la noyade. J'ai juste accepté des numéros masqués sur mon téléphone une couple de fois. Je suis allé attendre dans les salles d'attente du CHUM et j'ai été hospitalisé deux nuits. C'est vraiment rien. » Ça, c'est toi qui dis ça. Moi, je trouve pas que c'est rien, c'est bien pour dire, hein?
Et pourtant, des gens hospitalisés au CHUM deux nuits, il y en a un méchant
paquet.
Oui, il
y en a une trollée, mais...
Et des gens qui doivent gérer des numéros masqués sur leur téléphone parce qu'ils attendent les appels du CHUM, il y en a un méchant paquet. Puis on ne dit pas que c'est des héros, ces gens-là.
Ouais. Mais tu sais, entre le faire par nécessité, tu sais, je veux dire, quand je vais au CHUM, généralement, c'est parce que je suis arrivé à bout d'option. c'est rare, tu sais, que c'est ma première grande idée, mais de le faire, je trouve ça extraordinaire, un, pour le geste, mais je trouve ça extraordinaire pour la conversation que ça amène par rapport au don d'organes. Tu sais, oui, il y a ce que tu as fait qui n'est pas à négliger. Moi, je trouve ça fantastique. Ton autre rein va bien?
L'autre va très bien.
Excellent.
Ouais.
Excellent. Fait qu'on peut bien vivre avec un rein.
Bien, je veux dire, je cours des demi-marathons. Je pense que ça va.
Tu n'es pas végétative devant ta fenêtre à journée longue à attendre que le temps passe. Là.
On va dire que mon temps n'est pas si bon que ça, mais quand même, je cours des demi-marathons.
Ben déjà, tu te rends.
Ouais. Mais je cours plus vite qu'avant. Fait que je ne sais pas si tu as une corrélation
causalité.
T'es moins pesante,
il y a un rein de moins, l'élan est plus là. Les gens autour de toi, puis même les gens, tu sais, par ricochet, qui ont entendu parler de ça. Moi, ça m'a interpellé sur mon rapport au don d'organes. Mm-hmm. Oui, j'ai signé en arrière de ma carte, j'ai avisé mes proches. Ça, c'est le bout, on dirait que les gens oublient. Là, parce qu'au Québec, c'est pas mal les proches qui ont encore le dernier mot, malgré ce qu'on peut avoir mis en arrière de la carte. Il y a encore probablement un peu de travail à faire par rapport à la question du don d'organes, parce que ces organes-là, ils s'inventent pas, puis c'est pas vrai que quelqu'un qui vient d'avoir un accident, qui vient juste de décéder, on transfère les organes, puis c'est réglé. C'est pas évident, cette question-là, si on ne l'aborde pas de son vivant avec ses proches, parce que ça fait beaucoup à, juste comme cuté, comme mot pour les proches, de prendre une décision, notamment, mais de savoir aussi, ben oui, le don peut se faire du vivant, puis il n'est pas obligé de se faire parce qu'on a notre frère ou notre sœur qui nous gosse, parce qu'ils ont besoin d'un organe. Est-ce que tu penses que ça l'a éveillé peut-être quelques consciences? Puis ces affaires-là, ça se fait pas par milliers. Je veux dire, il n'y a pas un mouvement qui se rend au CHUM demain matin, là.
On n'a pas besoin non plus de dizaines de
Non.
milliers de personnes qui font ces démarches-là. Mais si j'en ai parlé, j'ai beaucoup hésité avant d'en parler parce que justement, je voulais pas que ça ait l'air que je l'ai faite pour avoir des petites médailles puis des affaires comme ça. Mais en même temps, si je l'ai fait parce que je n'avais entendu parler. Et si on n'en parle pas, personne ne va le faire.
C'est clair.
Et oui, j'ai entendu parler de personnes qui ont lu mes textes, qui ont vu des entrevues que j'ai données, puis qui ont décidé de faire les démarches. Puis il y a déjà des reins qui ont été transplantés qui sont le résultat de ça. Mais c'est ça, il n'y a personne qui se réveille le matin puis qui Google « Qu'est-ce que je peux faire avec mes organes? » C'est sûr.
Ben, il y a toutes sortes de gens, hein? Mais
Ouais,
non, non, oui.
mais le don d'organes, c'est un sujet dont on n'aime pas parler parce que c'est un peu, il y a quelque chose d'un petit peu dégueulasse. Il y a la mort là-dedans. Je veux dire, les organes, c'est pas, je veux dire, c'est pas beau un rein là, un lobe de foie encore moins.
Non.
Oh, puis on a l'impression que c'est un peu une crise comme les changements climatiques sur lesquels on n'a pas trop de pouvoir. Mais alors que oui, on en a du
Ben oui.
pouvoir. Des gens donnent son organe de son vivant parce que c'est un meilleur choix pour les receveurs. Quelqu'un qui a besoin d'une greffe va préférer la greffe de donneur vivant, d'une
Ben oui.
part parce qu'on choisit un peu quand ça arrive, puis c'est des organes de meilleure qualité. Et donc, ça permet à cette personne-là de vivre là, super bien pendant 15-20 ans au minimum, dans des super bonnes conditions. Il y a quelque chose de beau que moi, c'est un tout petit sacrifice. Ça permet à quelqu'un de gagner sa liberté. Il faut savoir qu'avant d'avoir une greffe, ces gens-là, pour la plupart, sont en dialyse. La dialyse, c'est vraiment chiant,
Oui, c'est
là.
pas
C'est pas aller prendre une prise de sang de temps en temps, là, comme c'est assis à côté d'une machine. C'est pouvoir difficilement voyager, c'est pas avoir d'énergie, c'est perdre sa liberté. Moi, je suis super privilégiée. Je suis en super bonne santé. J'ai des moyens financiers qui me permettent de prendre des congés de maladie. Je suis super bien entourée. J'avais de l'espace dans ma vie pour faire ça. Puis, j'ai pas perdu grand-chose. Puis, j'ai permis à quelqu'un de gagner une vie libre. Mais je pense qu'il y a plein d'autres personnes comme moi. Et je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a cet espace-là dans sa vie. Puis, je le vois. J'avais réfléchi à donner un lobe de foie. Puis là, en ce moment, parce que je prends soin de ma mère, c'est pas le bon temps pour moi de prendre le mini risque de subir une autre chirurgie. Fait que pour plein de gens, c'est pas le bon temps, mais pour plein de monde, ce l'est. Puis si tous ces gens-là qui ont du temps dans leur vie puis envie de le faire savaient que ça se pouvait puis faisaient les démarches, ben on arriverait peut-être à un certain équilibre. Et il y a quelque chose de beau, en tout cas. Je ne suis pas sûre qu'on peut sauver le monde, je ne suis pas sûre qu'on peut enrayer la souffrance à l'échelle de la planète, mais on peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un,
Et très
de très
concrètement,
concrètement, puis sans risque. Je veux dire, le risque, il se compare à une césarienne, là. C'est très,
J'en ai
très.
eu une, ça a très bien été. Je le recommande à tout le monde, mais
Fait que
non,
c'est pas un très gros risque. Fait que
non.
l'analogie avec le sauter dans le feu, c'est parce que moi, je le ferais jamais sauter dans le feu, là. Sauter dans la rivière glacée, jamais. Je suis ben trop chicken. Mais là, je veux dire, j'ai eu le plus gros bilan de santé inimaginable. Je veux
Oui.
dire, j'ai un scan au complet de mon corps, j'ai tout vu. Il n'y en avait pas de
Ça
risque.
s'est pas fait dans le fin fond du bois avec un scalpel un peu louche,
Ben
là, quand
non.
même, tu sais, c'est au CHUM.
Ben oui.
On sait là, qu'on est dans un environnement quand même bien.
Oui, puis j'ai des suivis à chaque année, puis tout le kit. Fait que c'est vraiment fait dans les meilleures conditions possibles. Puis j'entends parler de gens qui sont refusés parce que ben il y a des conditions médicales qui font en sorte que le risque est augmenté, des trucs comme ça.
Ah ben
Fait que
tant mieux, fait que c'est pas fait à l'aveugle,
c'est
n'importe qui se
vraiment pas
présente,
fait.
puis on gère pas le risque, puis on verra ce qui arrive sur la table
Puis on parle de
d'opération,
risque de
là.
santé physique, mais santé mentale également.
Oui.
Il y a des rencontres avec des psychologues, travailleuses sociales, tout ça, pour être sûr que la personne sait ce qu'elle fait, le fait pour les bonnes
Oui.
raisons et met pas sa santé physique ou mentale à risque.
Ben, merci. Merci de l'avoir fait, puis merci d'en parler aussi. Tu sais, comme ça fait plein de petits reins qui pourront se promener.
Voilà.
Certainement, c'est extraordinaire. Puis tantôt, ça, on va parler d'autres types de dons. On a quelqu'un d'Émo-Québec qui vient pour la deuxième partie de l'émission. Donc, tu sais, il y a toutes sortes
Oui,
de dons
ben
à la
oui.
hauteur de son niveau de confort, là, aussi. Là. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va faire « Ah, ben oui, un don de rein, let's go. » Mais
Mais donner du sang,
oui,
donner
donner
plein
tout ça.
de et ben voilà.
Parlant de dons,
Oui.
Hein, on peut donner de soi, ouais. Puis littéralement. Là, et on peut faire un don, on peut faire différents dons. J'ai goût d'en venir à la dépendance parce que, tu sais, on parlait du caractère universel de certaines causes qui font soigner, n'importe qui peut donner. Il n'a pas besoin d'être touché par une cause en particulier, des fois, pour donner. Je veux dire, qui est-ce qui donne à une fondation en dépendance? On dirait que tu sais, des fois, on parle de persona marketing, un type de donateur, puis bon, évidemment, tu sais, je dirais, moi, quelqu'un qui s'en est sorti, puis que ça va super bien, puis bon, qui sent reconnaissant, c'est une chose, on a toujours ça. Hein, c'est comme un patient hospitalisé, tu es à l'hôpital, il reçoit une lettre de la fondation de l'hôpital, vous avez été bien suivi, voulez-vous faire un don, puis bon, oui, OK. Mais je veux dire, ça en prend pas mal des petits dons comme ça, ça prend pas mal de financement.
Et les personnes qui sortent de la dépendance, c'est pas comme quelqu'un qui sort de l'Institut de cardiologie.
Non.
Souvent, ben, pendant la période de dépendance, ils ont contracté des dettes. Ils sont mis en froid avec leur famille. Ça fait que c'est pas des gens qui peuvent nous faire un gros chèque comme ça.
C'est ça. Hein,
C'est difficile. Donc oui, il y a des personnes qui se sortent de dépendance puis qui donnent là, à la hauteur de leurs moyens. Là. Des 5 $ par mois, c'est tellement émouvant. Recevoir un chèque de 10 $ là, ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment, 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 vraiment émouvant. Avec une petite lettre écrite à la main, puis merci pour ce que vous avez fait pour nous. Puis tout ça. C'est les plus beaux dons. Il y a les proches de ces parents, de ces personnes-là, des parents, des amis, des gens qui travaillent auprès de ces personnes-là aussi, les employés du CIUS, des collègues, des amis d'amis aussi. Okay. Mais c'est difficile. Ce qui est plus difficile, je trouve, c'est d'aller chercher du don corporatif.
Ouais.
Tu sais, la SPCR, c'était... On va dire que c'était facile, mais de l'argent pour les animaux, il y en a. On va voir les fabricants de nourriture pour animaux. Ouais. On va voir les cliniques vétérinaires. Il y a moyen d'aller chercher des petits pourcentages là-dedans, mais les dépendances, ben, les gens qui font de l'argent avec ça vont pas nous reverser un petit pourcentage plus tard. Fait que c'est beaucoup plus difficile. Ce que je vois, c'est qu'on peut aller chercher des dons en nature. Souvent, les personnes qui sortent de dépendance vont avoir besoin de biens matériels, s'installent en appartement, tout ça. Il y a certaines fondations qui commencent à nous donner en nature. Je pense, mettons, à la Fondation Tanguay qui nous a fait plein de dons, là, mais des trucs extraordinaires pour permettre aux gens de se repartir en appartement, des trucs comme ça.
Oui,
mais
il y en a qui repartent à zéro, vraiment, lorsqu'ils redéménagent et tout ça.
La plupart partent vraiment à zéro, mais c'est vraiment difficile. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de grande famille qui appuie les dépendances.
Non, effectivement. Puis il y a un autre truc aussi qu'on peut vous donner. Là, j'ai vu ça, là, Vinted caritatif.
Oui.
Donc, c'est super le fun. C'est comme une friperie virtuelle.
Mais c'est ça. On cherche des moyens d'aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas.
Ouais.
Et là, ce qu'on a commencé à faire, puis ça fonctionne, c'est qu'on demande aux gens de donner leurs vêtements qu'ils ne portent plus. Puis on a tous des vêtements chics qu'on portait avant la pandémie, puis là, on ne rentre plus dedans. Là. Nous, on prend ces vêtements-là, on les vend sur Vinted, là, qui est une plateforme en ligne de vêtements usagés. Ça permet de donner une deuxième vie à ces vêtements-là, puis de récolter des fonds. C'est sûr qu'il faut trouver des moyens différents parce que le gros gala puis ces affaires-là, comme on voit avec d'autres causes, bien, je veux dire, nous, on ne va pas vendre des billets de gala à 300 $ avec des dégustations de champagne. Là.
Et bon, il y a peut-être une incohérence dans le message.
C'est ça, fait qu'il faut trouver d'autres choses. L'an dernier, on a fait une dégustation de boissons sans alcool, juste avant les fêtes, fait que c'est intéressant parce que ça a permis aux gens d'avoir des idées de comment intégrer des produits sans alcool dans leur party des fêtes.
Ouais.
Puis on cherche toujours un petit peu à se renouveler, mais on est dans ces sphères-là.
Puis en plus, on le voit, là, c'est drôle, les gens boivent de l'alcool, personne ne pose de questions. On a une personne autour de la table qui fait comme, non, je vais prendre un truc sans alcool. Puis là, tout de suite, c'est, mais qu'est-ce qui se passe?
Es-tu enceinte?
Es-tu malade? As-tu quelque chose? À quel point c'est fou, malgré tout ce qu'on... Tu sais, on en voit plein, là, des anciens joueurs de football qui ont parti des trucs sans alcool.
Oui.
Tout ça, on en parle comme jamais.
Il faut normaliser la fête sans alcool ou en alternant. Mais j'étais dans un restaurant avec une copine... à Trois-Rivières, vendredi dernier, puis je conduisais pour rentrer, fait que je me suis dit, un verre de vin au repas, c'est assez, donc je l'attendais. Donc, pour l'apéro, je demande une bière sans alcool, puis il n'y en avait pas, et on m'a offert un verre d'eau. C'est triste!
C'est comme à l'époque où les végétariens pouvaient juste avoir une salade verte au restaurant comme option.
C'est encore souvent le cas.
Oui, OK, encore bon.
Je peux en témoigner.
J'avais espoir, mais non.
Mais je pense qu'il faut changer l'option par défaut.
Ben oui.
De la même façon que pour des raisons environnementales ou de compassion avec les animaux, il faudrait qu'il y ait des options par défaut sans viande. Ben, il faudrait que l'alcool, ça soit, on peut décider de boire de l'alcool parce que pour plein de raisons, mais que ce ne soit pas par défaut de l'alcool dans tous les repas un petit peu festifs.
Tout à fait, tout à fait. Évidemment, vous êtes la Fondation Dépendance Montréal qui soutenait le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal qui est rattaché au CIUSSS du Centre-Sud de Montréal.
Bravo!
C'est pareil que j'ai travaillé dans l'univers du CIUSSS. Notons là, que tout ça, c'est complètement gratuit. C'est un service public.
Oui.
Il y a une prise en charge qui se fait rapidement. Puis comme on arrive à la fin de l'émission, je veux juste donner très rapidement, si vous avez identifié, là, vous pensez que ou c'est clair pour vous que vous avez un enjeu de dépendance, il y a le guichet là, d'accès, numéro super important à retenir, le 514-385-1232. 514-385-1232. Si vous n'avez rien pour le noter, là, allez sur fondationdépendance.org. Déjà, ce n'est pas bête d'y aller. Vous allez pouvoir faire un don si jamais c'est pour ça que vous vous rendez là. Savoir ce que fait la Fondation. On soutient beaucoup les usagères et les usagers. Évidemment, les projets du centre de réadaptation. Et vous allez aussi avoir le numéro. Donc, Fondation Dépendance, avec un S parce qu'il y en a plusieurs, .org. Vous allez avoir tout ce qu'il faut là. J'ai goût de vous souhaiter, évidemment, le meilleur des succès pour la suite des choses. Un plus grand dialogue par rapport à tout ça. Qu'on arrête de tourner le regard comme on le fait malheureusement, avec plein d'autres enjeux comme l'itinérance, puis ça ne nous arrive pas, on ne connaît personne, ça ne nous touche pas, ce n'est pas à nous. Ça peut nous arriver, malheureusement, ça va arriver à un de nos proches, assurément, clairement. Alors, Élise Desauniers, merci beaucoup, ça a été franchement agréable.
Merci beaucoup.